Salvin, déconstruction, recyclage et réemploi dans le bâtiment. Avec Jean-Jacques Djeberi, gérant d'une entreprise de rénovation, Raphaël Fourcomin, architecte, Tony Ofira, recyclerie et Kia à la ressort.
Bon, bonjour tout le monde, j'espère que vous passez un bel Alternativa. Ça fait plaisir de voir qu'on a rempli la salle pour parler de bâtiment et de déconstruction, réemploi, recyclage. Donc je vais laisser nos intervenants se présenter. Claude, les femmes d'abord.
Donc Claude Barry, je suis architecte de formation et je fais de la programmation, c'est-à-dire que j'interviens avant la conception d'un projet, avant de savoir comment on va faire les choses, qu'est-ce qu'on va faire et quels seraient nos objectifs. Donc c'est un moment qui est très important dans le projet où on en reparlera tout à l'heure, c'est là où il faut se poser toutes les bonnes questions pour savoir où on va.
Bonjour, je m'appelle Raphaël Fourcomin, je viens au nom de l'association HYDRE, l'interprofessionnelle de la déconstruction et du réemploi. Je suis également architecte et urbaniste de formation et je ne construis pas grand chose, moi je démonte des bâtiments surtout, pour en sortir de l'information. Voilà.
Jean-Jacques Djeberi, maçon. J'ai une entreprise de bâtiments à Orvière, à côté de Moyen, et travaillant beaucoup sur tout ce qui est éco-construction et essayant de réfléchir un petit peu sur la réutilisation des matériaux et optimisation un petit peu de ce que l'on démolit en le mettant plutôt en déconstruction et en réutilisation.
Ensuite, je vais vous demander peut-être du coup, peut-être Raphaël en premier, de commencer à contextualiser un petit peu pourquoi c'est important la déconstruction, le recyclage des matériaux dans le bâtiment, qu'est-ce que ça représente? C'est beaucoup de déchets, je pense.
Tout à fait. Donc, vous n'êtes pas sans savoir que des bâtiments, c'est gros. Et ben, par conséquent, comme c'est gros, ça fait beaucoup de déchets quand on les démolit ou quand on les rénove. On est aux alentours des... Alors, je n'ai pas les chiffres exacts en tête, mais on est à peu près à 40 millions de tonnes par an en France. Donc c'est majoritairement du gravat et de l'inerte, mais il y a également là-dedans tout ce qui concerne les aménagements, le second œuvre, donc tout ce qui n'est pas du béton. Ça représente une grosse partie et c'est surtout cette partie-là qui est importante parce que les inertes, c'est non polluant en tant que tel. Par contre, tout ce qui concerne le second œuvre, comme le plâtre par exemple, ça c'est déjà plus polluant, on ne parle pas de la laine de verre ou de ce genre de choses. Et ça représente une grosse quantité parce que, à titre d'illustration, il y a à peu près 30 permis de démolition qui sont déposés en France par jour. 30 par jour. Et là, c'est que les permis de démolir. C'est-à-dire que ça ne concerne pas les permis de construire dans le cas d'une rénovation, par exemple, puisqu'il n'y a pas de permis de démolir dans le cas d'une rénovation. Donc en réalité, c'est beaucoup plus de 30 projets par jour qui se passent. Et qui génère du déchet. Voilà, qu'est-ce que je peux vous dire de plus?
Moi, ce que je peux dire, c'est que, alors que ça soit dans le cadre d'un projet qui peut être important ou de projets plus petits, hein, même à l'échelle, on va dire, domestique, à l'échelle de tout un chacun, on n'a pas l'habitude de réfléchir aux richesses qu'on a déjà et savoir ce qu'on peut réutiliser. Et ça demande vraiment de prendre les choses... dès le départ et de se poser la question suivante, qu'est-ce qu'on pourrait réutiliser? Ça fait quand même des décennies qu'on démonte des choses des fois qu'on a des valeurs patrimoniales qu'on pourrait réparer, qu'on pourrait réemployer, qu'on pourrait transformer pour réutiliser autrement. Et ça fait des décennies qu'on fait pas ça et on est un petit peu effaré et on pense qu'il faudrait vraiment y aller.
Le truc, c'est que vous savez qu'on est sur la fin du pétrole et de la majorité des énergies, mais pas seulement. On est aussi sur la fin du sable. Le sable, c'est la deuxième ou troisième ressource qui est prévue pour disparaître là, dans les années qui viennent. Hein. Et le sable, c'est le bâtiment, le BTP surtout, mais le bâtiment en fait partie, donc, qui en est le plus gros consommateur. Et le résultat, c'est que les plages disparaissent à proprement parler. Et ça crée des situations complètement abracadabrantesques, du genre les plages de Miami qui disparaissent. Donc ils mettent des gros bateaux aspirateurs qui pompent le sable dans le fond de l'eau pour le rejeter sur la plage, plage qui repart, parce qu'en fait ça fonctionne comme le système des vases communicants d'un côté et de l'autre de l'Atlantique. En fait, à force de pomper du sable d'un côté, et ben les plages de l'autre côté, elles s'en vont, parce que le sable, il coule. Donc voilà, donc là par exemple sur le sable, c'est une des raisons. Et en fait, ce qui se passe aussi, c'est que depuis à peu près un siècle, on ne récupère plus rien des bâtiments, alors que depuis, et je me permets de le dire, la nuit des temps, normalement, on le fait. Il y a une jeune femme, Sarah, j'ai plus son nom en tête, mais qui vient juste de présenter, de soutenir sa thèse sur la déconstruction et le réemploi dans les villes du Sud-Ouest pendant la guerre de 100 ans. Donc il y a quand même des travaux de recherche profonds qui sont faits sur le sujet. Elle a décrit l'intégralité des méthodologies qui ont été mis en place à l'époque pour démonter les bâtiments, pour récupérer les matériaux dans le cadre, là spécifiquement, de la guerre de 100 ans, mais c'est une pratique qui est juste courante partout dans le monde, intégralement partout dans le monde, depuis toujours. Ça fait seulement un siècle, bizarrement, depuis l'avènement de l'ère industrielle et du capitalisme, qu'on a arrêté de faire ça pour la société de consommation. Donc aujourd'hui, on ne va juste pas pouvoir continuer, et donc il faut qu'on démonte et qu'on réemploie tout ça.
Donc, c'est le quand vous parlez du sable, c'est pour faire le béton?
Le sable, c'est notamment principalement pour faire le béton, ouais. Mais on ne l'utilise pas que pour ça. Non.
Je vais juste reciter la personne avec le nom de la thèse.
Alors, le nom de la personne, je n'ai plus, mais par contre, je pourrais vous le donner si vous passez. On a un petit stand Hydre et j'ai le document qui va bien. Et, voilà.
Le stand, il se situe au niveau de l'esplanade en Hervé, qui est juste derrière, là, où il y a un espace au sein de l'espace sobriété. Il y a un espace éco-habitat. Bon, maintenant qu'on a contextualisé, on va parler un petit peu de comment faire, puisque aujourd'hui on a plein de méthodes qui existent pour certaines depuis très longtemps. Donc on va commencer à parler des besoins, parce que ça se pense très en amont. Tout ça, ça se fait pas au dernier moment. Du coup, Claude, peut-être que tu peux nous parler un petit peu de ça, parce que Claude est programmiste. Donc, programmiste, ça veut dire que c'est elle qui définit les besoins pour un client, un maître d'ouvrage.
Enfin, c'est pas moi qui les définis, j'aide le client à les définir. Ça, c'est la nuance. Quand je travaille pour quelqu'un, j'essaye de recueillir ses souhaits. Il arrive très souvent, oui, je veux une maison écologique, mais dans quel domaine? Qu'est-ce qu'on travaille? Donc là, il y a énormément de choses à décomposer pour savoir par où on va. Écologique, on ne peut pas forcément travailler sur tous les tableaux. Et je travaille un petit peu avec des particuliers, je travaille beaucoup avec des maîtres d'ouvrage publics. Et c'est les mêmes questions qui se posent. C'est OK, on va dans quelle direction? Donc pour peut-être revenir sur le réemploi, j'ai travaillé récemment sur le centre de ski de fond de Sonport. C'est un bâtiment de plus de 1000 m². Et arrivé à 1600 mètres d'altitude, on s'est dit là il faut vraiment tout refaire, parce qu'il y a c'est un bâtiment qui n'a pas une bonne logique, on va dire, déjà thermique, qui a une consommation énorme, il y a pas mal de malfaçons, il a 30 ans. On s'est dit, c'est pas possible, on ne va pas descendre 250 m² de vitrage de la montagne pour aller en ramener du neuf, rien que pour ça. On s'est dit, et à partir de là, on a creusé un peu la question pour savoir qu'est-ce qu'on pourrait récupérer dans tous les domaines. Électricité, charpente, couverture ardoise, les menuiseries. Et donc là, quand on fait un inventaire précis de ce qu'on pourrait récupérer, sans encore avoir les solutions, mais déjà il faut rendre compte, ça fait un premier état. Et à partir de ce premier état, j'ai été voir les élus et je leur ai posé la question, est-ce que c'est un objectif qui vous intéresse d'essayer de récupérer au maximum ce qu'on a déjà sur place? Le pari a été pris, ils ont vraiment adhéré à la question, aujourd'hui ils la portent. Mais on ne peut avancer les choses comme ça que quand le client, le maître d'ouvrage, c'est celui qui porte le projet, est volontaire. Donc des fois, pour une démarche personnelle, c'est vous-même pour vous-même. Et un maître d'ouvrage public, très souvent, c'est des choses qui viennent des élus qu'on n'arrive pas à convaincre ou pas, ou qui sont déjà convaincus, c'est le meilleur des cas. Voilà, donc une fois qu'on sait ses ressources, là je vais passer du coup la parole à à Raphaël qui fait des diagnostics réemploi. Il va vous expliquer comment il travaille.
Alors je pense qu'on peut insister un peu justement sur la partie des élus parce que, et des maîtres d'ouvrage en général, parce qu'effectivement elle est fondamentale. Si le client, qu'il soit public ou privé, ne décide pas dès le début de fonctionner comme ça, en gros, ça ne marche plus. Il faut vraiment à la base faire ça. Et sur cette question-là, je pense que Jacques, tu devrais avoir des choses à dire, il me semble.
Alors là-dessus, bon, j'ai l'inconvénient ou l'avantage aussi d'être élu communauté d'agglomération. Donc, au niveau décisionnel, des fois, c'est assez... échange, du moins, c'est un petit peu... C'est là que l'importance à la sensibilisation du maître d'ouvrage. Si vous voulez, dernièrement, j'ai eu quelques propos avec des décideurs, si vous voulez, qui ont une autre envergure que la mienne, et de dire un petit peu... Si nous, en tant qu'entreprise du bâtiment, on génère du déchet, si vous voulez, ce n'est pas de gaieté de cœur. On pourrait en faire moins, on en ferait moins. Sauf que des fois, on a des politiques urbanistiques et de maîtres d'ouvrage qui sont un petit peu draconiennes et qui ne se posent pas la question de dire ce qu'on va générer en déchet, on les met où et on en fait quoi. Si vous voulez, non, ça c'est le problème de l'entreprise du bâtiment. Okay, donc c'est assez facile de dire... C'est l'entreprise du bâtiment qui génère ce déchet. Non. Donc je crois que cette sensibilisation et cette réflexion en amont, le plus haut possible, si vous voulez, elle est super importante. Et après, on se pose tous autour d'une table et on dit, voyons qu'est-ce qui est réutilisable, on stocke ça où, qu'est-ce qui est vraiment du déchet que l'on peut récupérer. Moi, je me rappelle d'un chantier, si vous voulez, qu'on avait pu négocier ici sur Bayonne, justement parce qu'on avait mis en place... Autre chose qu'il y avait il y avait 600 mètres carrés de démolition de dallage. On refaisait ces dallages, si vous voulez, on les évacuait et on ramenait des hérissons, si vous voulez, avec du gravier beaucoup plus adapté. Ça avait été de dire, on avait un espace libre, on avait dit, on va démolir tous ces dallages. Par contre, on va faire venir un concasseur sur place qui va nous refaire du gravier sur place. Donc ça avait évité, si vous voulez, des transports un petit peu anarchiques de véhicules qui traversaient la ville, qui nous amenaient sans déchetterie, et de ramener d'une carrière du gravier. Alors que, voilà, ça avait été, si vous voulez, c'est un exemple parmi tant d'autres. Il y a des tas de choses que l'on peut faire différemment. Mais ça, entre maître d'ouvrage, entre maître d'œuvre et compagnie, c'est une réflexion de dire, attention, là. Et après, bon, la qualité du produit et compagnie influe aussi. Mais il y a des tas de choses, si vous voulez, en y réfléchissant un petit peu plus loin, on devient consommateur, le fameux, bon, voilà, mais... Je crois qu'il y a une sensibilisation qui est très importante là-dessus. Donc au niveau des maîtres d'ouvrage, j'insiste lourdement, et des élus, on a un message aussi à faire passer. Voilà, cette sensibilisation, elle est indispensable.
Sachant que, de toute façon, les déchets, justement, très souvent, la réaction, c'est de dire « Ah bah, effectivement, c'est le problème de l'entreprise, c'est elle qui gère, etc. » C'est faux. Dans la loi, les déchets appartiennent au maître d'ouvrage, au client. Au propriétaire de la maison ou du bâtiment public. Et donc, c'est à lui de gérer ses déchets. C'est lui qui prend la responsabilité d'aller les mettre en déchetterie, d'aller les enfouir, ou de les récupérer, de les réutiliser. Donc, la question, elle n'est vraiment pas neutre. Par contre, ce que ça soulève aussi, c'est la question du temps. Forcément, si on commence à se poser la question de la déconstruction et du réemploi, je disais tout à l'heure, il faut se la poser dès le début, parce que sinon ça ne marche plus. Une fois que le projet est engagé, bah, on n'y arrive plus. Et ça veut dire qu'il faut intégrer un temps un peu plus long, à la fois de réflexion, parce qu'il y a le diagnostic réemploi qu'on peut faire sur le bâtiment, et puis ensuite se poser la question de savoir bah, qu'est-ce qu'on peut faire des matériaux qui sont susceptibles de sortir de là, etc. etc. Et tout ça arrive avant le projet. Donc, parmi les choses, parmi les sensibilisations à faire, mais ça, je pense que c'est général, pas seulement sur la question du bâtiment, c'est réussir à faire passer le message comme quoi il faut ralentir le processus de construction. On va beaucoup trop vite. Il faut prendre le temps de réfléchir. Et la déconstruction, elle nécessite ça. Si on ne prend pas le temps de réfléchir pour faire de la déconstruction et du réemploi, on n'y arrive pas. Donc ça, c'est un des points importants aussi sur ce sujet-là.
C'est réfléchir différemment dès le départ. Parce que si on pose pas ces choses dès le départ, ben on fait comme d'habitude. Et comme d'habitude, ben ça marche pas. Et je dirais, c'est dès le départ. Et après, effectivement, ce qui est important, c'est que sur toute la chaîne, en conception et en réalisation, qu'on ait des acteurs qui veulent y aller. Parce qu'il va y avoir, il y a des, malheureusement, pour ne parler de freins, mais il y a des freins, faut se dire, il y a quand même des freins, ne serait-ce qu'en conception, si on doit concevoir à partir d'un gisement de choses à récupérer, ben, on travaille différemment. On va partir avec des contraintes qui ne sont pas les mêmes pour concevoir et savoir ce qu'on va pouvoir faire. On ne va pas pouvoir faire la même chose que si on commande dans le catalogue des choses toutes neuves. Donc voilà, à chaque étape, donc résultat des courses, on va avoir moins de fournitures, mais on va avoir plus de réflexion et plus de main-d'œuvre.
Donc c'est inabordable.
Non.
Ah non,
ça n'est pas inabordable.
Non, ce n'est pas inabordable.
On va y arriver.
On parle du coup, quand même.
On va y arriver à la question économique. Juste par rapport à ce dont on parlait, à la définition des besoins et méthodologiquement, comment on fait pour que les concepteurs, l'équipe de maîtrise d'œuvre puissent s'emparer du sujet, donc avoir conscience quand ils vont concevoir le projet des ressources disponibles dans le cas d'une réhabilitation par exemple. Raphaël, tu peux peut-être nous expliquer un peu plus, tu as parlé de diagnostic réemploi. On a entendu parler pour certains peut-être de diagnostic déchets qui sont aujourd'hui obligatoires pour des bâtiments de plus de 1000 m², en tout cas en réhabilitation de bâtiments publics. Tu peux nous parler un peu de ces méthodes, de ce qui est obligatoire aujourd'hui, mais ce qu'on pourrait faire en plus pour ce que justement, quand on arrive en phase de conception, on ait les outils et la connaissance de ce sur quoi on travaille pour mettre en place des opérations de réemploi qui soient opérantes et efficaces économiquement, parce que c'est possible, même si on reviendra sur le sujet.
Oui, alors, si je reprends un peu dans l'ordre, le diagnostic déchets, effectivement, aujourd'hui, il existe un diagnostic déchets qui est théoriquement obligatoire pour les bâtiments de plus de 1000 m². Ce diagnostic déchets, il est théoriquement obligatoire dans la mesure où, en fait, il n'y a pas de volet coercitif à cette obligation. Résultat, en fait, ce diagnostic n'est jamais fait, pratiquement jamais fait. Et même si c'est déjà une bonne chose, ce diagnostic, malheureusement, il arrive trop tard. Je parlais de la temporalité tout à l'heure qui est inhérente à ces processus de déconstruction et de réemploi. Le diagnostic déchets, il arrive une fois que le projet est déjà ficelé pour voir ce qui, dans le bâtiment existant, va partir en déchetterie du fait du projet de rénovation. Or, quand on en est là, ça veut dire que le projet a été bouclé. Il a été dessiné de manière traditionnelle, et la manière traditionnelle de dessiner pour un architecte, c'est de dire, bon bah, j'ai mon supermarché, c'est point P, caricature un peu, mais en gros on est là-dessus, et je sais que dans mon supermarché, bah, j'ai tout ça disponible, donc je dessine mon projet, et je sais que bah, j'ai besoin de tant de plaques de placo, chez point P ils en ont, c'est bon, j'ai besoin de câbles électriques, RD je sais pas quoi, etc., etc. Donc je dessine à partir d'un catalogue de matériaux que je peux trouver là-bas. Et le résultat, c'est que le diagnostic déchets, bah, ça y est, on a déjà tout dessiné, donc ça ne marche plus. Le diagnostic réemploi, lui, il doit venir en amont du projet. On a un bâtiment, on sait qu'on doit le retaper. Très bien, la première chose à faire, c'est de faire la liste, en fait, c'est bête et méchant, c'est faire la liste des matériaux qui sont en place, voir ce qui est en bon état, ce qui vaut le coup de récupérer, ce qui est facile à démonter, ce qui n'est pas facile, etc., etc. Et à partir de là, en fait, on se retrouve avec une liste de matériaux disponibles qu'on sait qu'on va démonter, qu'on va ranger proprement, qu'on va bien numéroter et tout pour pouvoir les retrouver comme dans un magasin. Et à partir de là, on va pouvoir commencer à dessiner un projet en prenant en compte ce qu'on a en stock, potentiellement. Donc ça arrive bien avant.
Là, on peut commencer à rentrer sur la question économique.
Parce qu'une fois qu'on fait...
Avant d'y arriver, je rebondis juste. Au final, ça revient à rajouter des informations à un état des lieux. Quand on fait des plans d'état des lieux d'un bâtiment pour le réhabiliter, ça revient à y ajouter toute l'information dont on a besoin pour savoir ce qu'on réhabilite et ne pas avoir juste des plans qui vont permettre de faire un projet de réhabilitation, un projet architectural ou en tout cas un projet fonctionnel, mais c'est d'avoir aussi toute cette information technique en amont pour pouvoir concevoir le projet.
Et cette information, on peut commencer à la qualifier, c'est-à-dire savoir quel est l'intérêt de récupérer tel ou tel matériau, un, du point de vue économique, deux, du point de vue écologique, environnemental, et trois, du point de vue social. Et on voit très bien que, bah, par exemple, pour le fait de récupérer soit des ardoises, et puis aussi du point de vue technique. Hein. Et du coup, on voit que... on peut, selon les types de matériaux, savoir si c'est intéressant ou pas, économiquement, écologiquement, et on peut faire, le maître d'ouvrage peut faire des choix avec certains critères et pas d'autres. Pour vous dire, quand on commence une opération, moi je ne dis pas au maître d'ouvrage, vous allez faire des économies. On part à coût égal, et après on essaye de travailler pour maintenir un coût égal. Parce que sur chaque logique, on va avoir, il faut, là, après il faut décomposer, et il faut voir effectivement combien ça coûte en main d'œuvre. Le temps qu'on va passer, et au final il peut y avoir des postes, ça peut revenir à plus cher qu'au départ, pour certains oui, mais après le gain au niveau environnemental, le transport qu'on fait au moins, la problématique des déchets qu'on a résolu, ça compte, mais ça compte pas numérairement, donc il faut savoir ce qu'on veut faire.
Il y a quand même un coût d'élimination des déchets.
Bah, si on les réemploie sur place,
oui, non, mais c'est ça, il faut le mettre en face de ça,
oui,
aussi,
il y a ça aussi,
et une économie par rapport à...
Ah oui, il faut tout mettre en face.
Alors,
c'est pas la même ligne budgétaire, en effet. Ça fait partie des gros problèmes, c'est qu'on fonctionne avec des lignes budgétaires et qu'elles se croisent pas forcément. Juste deux secondes, après je te passe la parole. Le problème sur le coût des déchets, c'est qu'effectivement, ça a un coût. Sauf que comparativement à un budget de rénovation, ce coût de mise en déchetterie, aujourd'hui, il est très faible. C'est vraiment pas grand chose. Alors après, en fonction des matériaux spécifiquement, ça peut varier, mais dans l'ensemble c'est un coût qui est relativement faible. Et l'autre problème vis-à-vis du coût, c'est qu'aujourd'hui la matière, malgré la pénurie qui nous arrive dessus, pour l'instant la matière est toujours pas chère. Donc à l'heure actuelle, pour commencer à répondre un peu à cette problématique de l'économie, à l'heure actuelle, on n'est pas dans un contexte général qui fait que c'est super intéressant de faire de la déconstruction et du réemploi. Pendant la guerre de 100 ans, c'était super intéressant parce que de toute façon, ils n'avaient pas de ressources. Les ressources, elles étaient là, et, c'était ce qui était construit, point barre. Donc ils n'avaient pas le choix. Aujourd'hui, nous, on a le choix parce qu'effectivement... Ça, c'est pas très cher d'aller acheter du placo. Et tant que le prix de la matière et le prix de l'énergie, en fait, qui est derrière, parce que la matière, c'est principalement de l'énergie, n'augmente pas, on va continuer à batailler pour faire de la déconstruction et du réemploi. Mais, même en prenant ça en compte, on arrive quand même à sortir des choses intéressantes économiquement. C'est-à-dire que, en fait, ce qui se passe, c'est que ça coûte pas moins cher, mais ça réoriente les flux monétaires de la matière, du capital, vers du travail. La déconstruction, c'est, juste pour illustrer, une démolition, c'est beaucoup de capital, très peu de travail. C'est un mec au volant d'un bulldozer. Voilà, le bulldozer, c'est le capital, il est énorme, il coûte super cher, et puis t'as un seul mec qui est payé une misère pour le conduire. La déconstruction, c'est une dizaine de mecs, ou cinq mecs, enfin c'est une poignée. Par contre, en gros, passez-moi l'expression, avec leur bite et leur couteau, quoi, parce qu'il n'y a besoin de rien pour démonter un bâtiment. C'est étonnant, mais il n'y a besoin vraiment de rien. Avec un marteau, une scie, une visseuse, on arrive déjà à démonter une grosse partie d'un bâtiment. Donc là, c'est beaucoup de travail, très peu de capital. Et...
Le béton, c'est...
Ouais, non, mais il y a des cas particuliers, du genre le béton.
C'est le voilà. Trois quarts des bâtiments, quand même.
Ouais, sauf que... Non, mais c'est pas... Le truc, c'est que le béton, ça représente la grosse majorité, mais c'est pas là où il y a le plus de valeur.
Ce qui est... Après, au niveau du béton, il y a des expériences, quand même, qui montrent qu'on peut réemployer le béton en le concassant pour l'utiliser dans du béton pour faire des ouvrages qui sont pas nécessairement structurels. Mais il y a des expériences qui montrent que c'est, y compris économiquement, intéressant, et c'est quelque chose qui commence à se faire.
Après, tous les types de béton, y compris le brancher par exemple, je suis spécialiste. Alors, moi je vais revenir un petit peu en arrière, c'est-à-dire tout ce qui est, on parlera de démolition, de voilà. Nous on travaille énormément en rénovation. Si vous voulez. Moi j'ai dit, attendez, on a des bâtiments, nombre de gens nous disent, ça c'est à raser. Ça, il faut démolir. Ok, très bien, on ne peut pas en faire une habitation, c'est insalubre, c'est... Voilà. Parce qu'on a perdu un savoir-faire. Avant, on arrivait à rénover, si vous voulez, les bâtiments. Et nous, si vous voulez, on est amateur un petit peu des moutons à cinq pattes. Donc moi, je suis un fada de chaud. Pourquoi on applique, si vous voulez, on s'est penché un petit peu sur le travail avec le chaud-chambre, de dire, on va sortir un petit peu des lobbies, on a perdu des savoir-faire. On a perdu des... Avant, on savait faire avec nos mains, avec nos bites, nos couteaux, voilà, excusez le terme, mais je ne fais que réutiliser le propos. Et par contre, on n'a plus personne dans nos métiers qui savent faire ça. Et ça, c'est dramatique, parce qu'on a perdu un savoir-faire, on est victime de lobbies, on est victime aussi d'une de certaines notes de calcul que l'on a mises en place, si vous voulez, si je prends des R, si je prends des calculs thermiques et tout ça, qui sont mis en place par Saint-Gobain et consorts, pour pas aller, voilà, il faut pas oublier ça. Et on a oublié aussi énormément de bon sens, si vous voulez, de ces habitations qui ont un caractère et tout ça, plutôt que de mettre une pelle et un conducteur qui vous rase tout ça pour en faire un beau bâtiment, si vous voulez, bien carré, bien propre et vraiment aux normes, dire attendez, on est en train de perdre de notre patrimoine, et moi je suis un fervent défenseur un petit peu de dire attendez, ces maisons on peut leur donner une seconde vie. On est en train de parler de réutilisation de matériaux, on a la réutilisation aussi de l'habitat existant. Attendez, certains moments on a besoin de démolir parce que on a construit toujours autour et on s'est retrouvé avec ou des espaces, si vous voulez, de promenade ou des espaces verts et tout ça que l'on n'a plus parce qu'on a tout, on a tellement empilé de choses autour. Ok, si vous voulez, on a tout un raisonnement qui va aller plus loin, si vous voulez. Et après derrière, on a toute une sensibilisation aussi de nos compagnons. Si vous voulez, il y a le maître d'ouvrage, il y a certainement le maître d'œuvre qui fait son travail, mais au sein des entreprises, nous on a un travail de conscientisation, si vous voulez, qu'on a à faire auprès de nos compagnons. De dire, si vous voulez, attendez, on crée une ouverture par exemple dans un mur en pierre, chez nous on récupère toute la pierre, si vous voulez, qu'on a, et on la stocke, parce qu'on a un espace de 7000 m² sur lequel je peux stocker, si vous voulez, de la pierre, de la terre végétale, du gravier ou des bitumes que j'ai récupérés, que je peux réutiliser, si vous voulez, en fondation sur un autre endroit. Et tout ce qui est métaux, on les récupère dans une benne bien particulière. On a mis en place, si vous voulez, l'entreprise Echeverry Etché Boncoin. Et oui, il y a des choses qu'on revend, si vous voulez. Il y a Etché Récup, il y a tout un ensemble de choses, si vous voulez, de dire. Dernièrement, il y avait un cas de figure où une maison qui avait 300 m³ de pierre, si vous voulez, était le gars faisait un trou à côté et enfouissait toute la terre, enfin toute la pierre. C'est-à-dire, un jour, il y a un des gars qui lui a dit, attends, peut-être Echeverry va être intéressé, toi, par ta pierre et tout ça. Et bien, il m'a appelé, je lui ai acheté la pierre, si vous voulez. Bon, évidemment, c'est des matériaux qui sont... Mais on réutilise cette pierre. Actuellement, on fait venir de la pierre d'Inde, du Brésil. Ça vient par cargo, si vous voulez, parce qu'on n'a plus de pierre ici. Je suis désolé, on a de la pierre ici. Sauf que même quand je vois, si vous voulez, les gars qui prennent de la pierre de déconstruction que l'on a ici, qui me prennent un truc, je ne vois pas pourquoi vous me prenez une chasse et un marteau. Ça a été déjà taillé une fois. On ne peut pas la réutiliser comme ça même. Si vous voulez, mais tout ça, si vous voulez, on ne sait plus le faire. Et ce sont des choses qui sont élémentaires. Vous avez peut-être tous touché une truelle et puis les quatre pierres que vous avez empilées au bord de votre jardin ou de votre... Eh bien, mais c'est de la réutilisation. Et ça repose sur du bon sens. Et là, c'est pas la peine d'aller loin, si vous voulez, pour faire ces choses-là.
Alors, je rebondis. C'est vrai je disais tout à l'heure, on ne sait pas les richesses qu'on a. Et dans le bâti ancien, madame, vous parlez du béton, mais avant de reconfigurer des choses en béton, on a quand même énormément de ressources dans le bâti ancien. Souvent les pierres étaient jointées à la terre, ça se démonte très très facilement, on peut récupérer cette terre. On a le sable, pas que pour faire du béton, avec le sable on peut faire des enduits à la terre, on peut travailler la chaux. Et pourquoi ne pas récupérer des matériaux qui ont été mis en œuvre anciennement plutôt que de les jeter et puis d'aller chercher du nouveau sable. On a finalement, quand on réhabilite une maison ancienne, on a un gisement incroyable. On a beaucoup de choses sur place. Et ça, on ne le fait pas assez, je trouve. Il y en a qui le font. Mais oui.
Comment est gérée la responsabilité en termes d'assurance quand on utilise des matériaux anciens, sachant qu'il y a certains matériaux qui n'ont effectivement pas posé de problème, mais il y a d'autres où on ne connaît pas la provenance et on sait que quand il y a une expertise judiciaire, on va convoquer tout le monde, y compris les fabricants.
Alors, un début de réponse là-dessus, parce que c'est probablement l'aspect le plus difficile aujourd'hui sur le sujet. Donc, les matériaux sont à la responsabilité du maître d'ouvrage. Aujourd'hui, quand on fait une rénovation ou une démolition, pardon, une réno, si on démonte proprement et qu'on stocke sur place les matériaux, dans ce cas-là, ils n'acquièrent pas le statut de déchet. À partir de là, ça veut juste dire qu'ils sont exactement les mêmes, avec les mêmes garanties, les mêmes responsabilités, etc., etc., que quand ils ont été mis en œuvre la première fois. Donc là, il n'y a aucune question qui se pose. Et en fait, c'est juste la situation normale. Réemploi sur site. Là où ça devient plus problématique, c'est quand on démonte des matériaux qu'ils sortent du site, qui vont ailleurs et qui doivent être employés après sur un autre projet. Le fait de sortir du site, ça leur fait acquérir le statut de déchet. Et la sortie du statut de déchet est super compliquée. Et à partir de là, on se retrouve avec des problématiques de responsabilité, etc., etc. Aujourd'hui, dans la société de normalisation dans laquelle on vit, effectivement, ça bloque beaucoup, notamment beaucoup de professionnels, pour remettre en œuvre des matériaux, même en très bon état et sans aucun risque en soi, parce qu'ils ne peuvent pas, enfin, ils ne veulent pas prendre la responsabilité de ça, parce qu'effectivement, il serait tenu pour responsable en cas de pépin. Et donc ça, c'est un gros problème.
Il faut batailler pour trouver les acteurs. Par exemple, bureau d'études bois, je trouve un bureau d'études qui est motivé par la cause. Et dans tout, c'est un bureau d'études, on lui demande souvent, il est sur des restructurations, on lui dit qu'il faut tout changer. Systématiquement, il regarde si on peut réemployer des structures. Très souvent, on a l'habitude d'ouvrir le parapluie, on démolit tout. Donc il faut trouver en fait des acteurs qui sont motivés à chaque étape pour mener à bien le projet et toutes les entreprises, etc., sur toute la chaîne. Et ça, c'est un sacré défi quand on veut monter une opération de A à Z. Et effectivement, il y a toutes les histoires après de normes, etc., qu'il faut gérer.
Alors, je prolonge un tout petit peu, puis je te passe la parole après. Pour finir sur... essayer de finir de répondre un bout. Ce qui se passe en fait sur la déconstruction et le réemploi, c'est qu'on est à peu près dans la même situation qu'il y a encore très peu de temps sur la construction paille. La construction paille, jusqu'à très récemment, il n'y avait aucun bâtiment public qui se construisait en paille. Parce qu'il n'y a pas les normes, on ne sait pas faire, oh là, trop dangereux, la paille ça brûle, enfin bon, c'est tout un tas de conneries. Et ce qui a permis aujourd'hui de faire que des bâtiments publics se construisent en paille, c'est principalement le bureau de contrôle. En l'occurrence, pour l'instant, il n'y en a qu'un seul, un seul mec en France, qui accepte de faire de tamponner ce qui va bien, le papier qui va bien, pour dire « Ok, on construit un bâtiment en paille ». Et ces bureaux de contrôle-là, aujourd'hui, s'il n'y en a qu'un seul, c'est parce qu'il n'y a qu'un seul mec qui accepte de mouiller la chemise. Tous ses collègues, c'est ce qu'il me racontait l'autre jour, tous ses collègues, à chaque fois qu'on vient les voir avec un sujet bâtiment paille ou un truc dans le genre, oh là, va voir un tel parce que lui, il sait,
Qu'un bâtiment en paille est plus tableau feu qu'un bâtiment en parpaing.
Et aujourd'hui, dans la déconstruction et réemploi, en fait, on en est là. Il faut qu'on arrive à trouver un mec de bureau de contrôle qui, autant pour moi, je suis pas très très fort sur ce truc là, mais effectivement tu as raison, qui accepte de se mouiller pour pouvoir lancer le truc.
Et comment on les trouve alors?
C'est juste ma question, effectivement, d'avoir les bons acteurs, c'est le rôle du contrôle, parce que c'est vraiment, je crois qu'il est bloqué beaucoup de choses, et je ne sais pas pourquoi. Et je pensais notamment qu'il y a des règles professionnelles pour la construction paille qui font foi, parce que c'est... dans le réemploi, la réutilisation, est-ce qu'il y a des avancées un petit peu au niveau... pas normatif du coup, mais c'est, voilà, est-ce qu'il y a des... des rages, enfin, des documents qui sont en train d'être constitués ou pas?
Alors, pas du tout. Il n'y a aucun document qui est en cours de constitution de quoi que ce soit. Pour l'instant, on en est vraiment au tout début. Mais après, sur les règles professionnelles, en fait, c'est con, mais c'est les DTU et les règles professionnelles des matériaux normaux. Une poutre en bois...
Ça a permis de faire avancer des choses aussi.
Oui, mais parce que c'est une méthode constructive intégrale. Là, dans la déconstruction et le réemploi, on n'est pas sur une méthode constructive, on est sur le principe de réutiliser un matériau. Tu démontes une poutre, tu vas la remettre en œuvre comme poutre avec les règles de mise en œuvre d'une poutre. Enfin,
nous, on a, si vous voulez, ça fait quand même quelques années que je bosse, si vous voulez, en rénovation. L'erreur est humaine, certes, mais on a perdu, si vous voulez, cette expertise que l'on avait auprès du professionnel qui réalisait le travail. Vous travaillez avec une pièce de bois aujourd'hui qui est neuve, qui est censée être Le défaut, je peux l'avoir, si vous voulez, sur cette pièce de bois. Elle est censée être normée, mais on a, à un moment donné, une poutre chaîne, si vous voulez, qui a 100 ans, qui est restée à l'abri. On voit vite si elle est saine ou pas. On a des portées qui ont été déjà établies. En plus, il y a de fortes chances que cette poutre, elle ait été déjà réutilisée, si vous voulez, dans le temps. Parce que souvent, on retrouve des poutres qui ont été inversées, ou si on lit un petit peu le bâti ancien, on se dit, tiens, on retrouve des encadrements en pierre. Ah, oh, mais ça, ça a été déjà réutilisé dans le temps. Ça a pris une deuxième vie. Moi, si je peux lui donner une troisième vie, c'est encore mieux. Si vous voulez, et une pierre, si vous voulez, ça a une résistance des pierres d'encadrement et compagnie. Si vous voulez, quand on récupère des choses comme ça, on a quand même une expertise de dire... C'est qu'aujourd'hui, on est en train de se cacher, si vous voulez, à un moment donné, derrière des bureaux d'études et des bureaux de contrôle, en disant, parce que c'est beaucoup plus facile, si vous voulez, de dire, bon, je ne vais pas batailler, moi, à réutiliser ces produits. Tu as vu le truc, là, il faut rescier, il faut... Et on va faire ça au carrier, parce que ma pierre, elle arrive là-bas d'Indonésie ou de je ne sais où. C'est beaucoup plus simple, alors que celle-là, je l'ai sur place. Et ça demande un autre travail, ça demande une autre expertise. Et voilà. Et quand on parle de la paille, si vous voulez, le retour sur la paille, on a exactement la même chose avec le chaud-chambre. Si vous voulez, moi, je fais partie de construire un chambre au niveau national. Au niveau des résistances au feu et compagnie, on a actuellement des choses qui sont extraordinaires, quoi. Mais ça, on ne veut pas en parler parce qu'on est dans des niches. On sort, si vous voulez, des lobbies classiques.
Bon. Sans parler de l'hygrométrie, la thermique. Alors effectivement, ça va aussi avec un raisonnement sur, quelque part, ça peut pas s'évanouir, la question du mode constructif. Qu'est-ce qu'on met en œuvre? Quel type de produit on met en œuvre? Sur le bâti ancien, on va, dans tout ce qui est maçonnerie, on va avoir beaucoup plus de ressources que sur retravailler un béton. Bon, après, un béton, on peut aussi lier des morceaux, remettre des morceaux en œuvre. Bon. Il y a aussi des solutions. Mais c'est pas la même échelle.
Je fais juste une toute petite aparté. On peut passer une couche pour ceux qui veulent gentiment apporter une petite participation à Alternativa. Ouais.
Voilà. Sur les matériaux, un petit truc en plus que je voudrais rajouter. Donc je démonte plus de bâtiments que j'en construis aujourd'hui. Ça veut pas dire que j'en démonte beaucoup, mais... surtout ça mon activité. Et l'objectif de ces déconstructions, c'est justement de voir, de trouver des techniques qui vont bien pour démonter le plus facilement possible, le plus rapidement possible, avec le moins de déchets possible, de voir combien ça coûte, combien de temps ça prend, quels outils il faut, etc. etc. Et donc on commence avec tous les copains avec qui on bosse à Hydre, on commence à avoir un peu de retour là-dessus. Et en fait, quelque chose qui ressort de là, et pas seulement nous, de notre travail à Hydre, mais également des autres groupes un peu partout dans le monde qui bossent sur le sujet, notamment par exemple, il y a un collectif d'archi belges qui s'appelle Rotor, qui travaille là-dessus depuis une dizaine d'années, et qu'on fait vraiment un super boulot, et qu'on travaillait sur la constitution de la filière, pour le coup, avec les problématiques réglementaires, normatives, etc. Alors, dans le cadre du marché belge, mais... Belgique, France, on est relativement proche sur ces aspects-là. Mais ce qui ressort de la déconstruction, ce qui est assez marrant, c'est que en fait, les matériaux qui vont ressortir vont tous être de bonne qualité. En fait, la déconstruction ne produit pas de matériaux de mauvaise qualité. Tout simplement parce que pour qu'il soit démonté, le matériau, il faut qu'il ait subi, un, la mise en œuvre, deux, la vie du bâtiment, et trois, la dépose. Ça fait trois opérations qui sont quand même super costauds pour un matériau, et si le matériau n'est pas de bonne qualité, il ne tient pas les trois opérations. Donc celui qui sort de là, ça veut dire qu'il est passé par ces trois filtres-là, test en quelque sorte, et donc c'est du costaud. Un exemple parmi d'autres, mais enfin, il y en a à foison, les pavés, les carreaux de ciment. Carreaux de ciment, c'est indestructible. Et effectivement, en général, ça a été posé, collé à la chaux, ça se démonte tout seul, c'est inusable, on peut le réemployer, il n'y a pas de problème. Résultat, on le sort, ça coûte cher, hein, ça, à la revente, Rotor, alors moi j'en ai pas déposé, mais Rotor en a déposé un paquet, ils le revendent à 50 balles le mètre carré. C'est cher, 50 balles le mètre carré pour un revêtement de sol. Ok, sauf que le carreau de ciment, normalement, c'est à plus de 100 balles le mètre carré. Et eux, c'est des vrais carreaux de ciment anciens, avec donc une épaisseur de couche d'usure de l'ordre de 5 à 10 mm. Donc avec la teinture qui va dedans, aujourd'hui les carreaux de ciment neufs qu'on achète, la couche d'usure elle est très fine et les pigments qui sont dedans c'est sur cette petite couche seulement. Donc on n'est pas du tout sur les mêmes qualités. Et en gros c'est ça, sur le matériel électrique c'est pareil, ce qui va ressortir des déconstructions ça va être du matos, bah, effectivement qui a passé X centaines, voire milliers de fois, l'entrée et la sortie de la fiche dans la prise. Et résultat, la prise, si elle est pourrie de chez Brico Dépôt, tient pas, en fait. Elle pète. Et donc, on est que là-dessus. Du bois qui est mauvais, on va pas le démonter. Ça sert à rien. Lui, il dégage. Donc, ce qui va sortir, ça va être que du bois qui est de bonne qualité. Alors après, il y a quand même des vérifications à faire, parce qu'on peut avoir loupé des trucs, etc. Mais en règle générale, c'est ça. Donc, on se retrouve avec des matériaux qui sont d'un standard haut.
On a une démarche aussi qui est, si vous voulez, parce qu'on va parler quand même d'économie. À un moment donné, quand vous êtes sur un projet, et quand vous êtes, si vous voulez, sur de la réhabilitation en particulier, nous, ce qu'on a essayé de mettre en place, si vous voulez, ces 10 dernières années, ça a été de dire, voyons, bon, parce que on a des coûts, on n'est pas donné, on est même cher, si vous voulez, c'est de dire, voyons comment est-ce qu'on peut faire adhérer le client à la démarche de reconstruction. Il y a des choses, tiens, il y a des parts de déconstruction, il y a un piquage de mur qui est vendu, qui coûte tant si c'est réalisé par l'entreprise. Hein. Voilà, piquage, on va mettre 25 euros du mètre carré. Voilà. Par contre, le client, si vous voulez, en face de ce chiffre, il va voir ce piquage, bon, mais ça, est-ce que je ne peux pas le faire moi-même? Parce que j'ai des copains qui peuvent venir le samedi. Et il y a des types de travaux, si vous voulez, à un moment donné, on va un kit en fonction des capacités de chacun. On spécifie, si vous voulez bien, on décortique bien les devis, et il y a de dire, tiens, démolition de sol, ça je prends un marteau-piqueur, je fais une location, et puis je me farcie moi-même. Donc les gens savent quel coût ça a, ils s'imprègnent encore plus du projet, parce qu'ils ont dit, t'as vu ça, si j'aurais fait faire ça à l'entreprise, ça aurait coûté 4000 euros. Je l'ai fait moi-même, bon, certes il y a 400 euros de location de marteau-piqueur, mais par contre, je m'imprègne de mon projet, quoi. Je suis constructeur chez moi. Et ça, je crois que c'est important aussi. Ça peut être aussi une piste, si vous voulez, à explorer, de dire, attends, moi aussi, je peux être acteur de mon projet. Voilà. Avec le suivi d'une entreprise, évidemment, qui vous épaule en disant, attention, ça, tu ne commences pas à démolir en bas parce que tu as tout le reste qui va tomber. Mais non, il y a des choses, si vous voulez. Mais il y a des choses simples, si vous voulez, qui peuvent vous faire devenir partenaire de votre projet, quoi.
La mise en route de chantier, ça c'est des activités qu'on aimerait qu'ils se développent de plus en plus avec les artisans. C'est hyper intéressant d'avoir, il faut avoir le savoir au début, savoir ce qu'on doit faire, ce qu'on pas faire, mais une prestation de mise en route de chantier, l'artisan il revient de temps en temps pour voir comment ça se passe, il suit le truc, chantier éventuellement participatif, ça c'est une activité très intéressante dans ce domaine-là, parce qu'on peut se dire en tant que maître d'ouvrage, bon ok, si je fais... je ne sais pas si par exemple je rejoins à la chaux tous mes murs. C'est beaucoup de temps, ça va être inabordable par une entreprise. Mais moi j'ai envie de faire ça.
Il ne faut pas dire ça, hein. On en fait.
Pardon. Oui, mais tous vos clients n'en font pas.
Non.
Alors qu'on sait que ce n'est pas si compliqué d'aller rejoindre à la chaux des murs. Après, c'est du temps. Ce n'est pas désagréable.
C'est ça.
Et puis il y a un autre aspect aussi, une fois de plus dans notre société de consommation et de surconsommation, parmi les choses qu'on consomme beaucoup, énormément, beaucoup trop, c'est de l'espace. La surface de logement par habitant aujourd'hui, elle a explosé en 30 à 50 ans, quoi. Et peut-être que on ferait bien de construire plus petit. Mettons, j'ai un projet de baraque, je veux une maison de 100 mètres carrés, ça va me coûter 150 000 balles, 200 000, un truc dans le genre. C'est une réno, et si je veux faire de la déconstruction et du réemploi, ça va me coûter 10 000, 20 000 de plus. Bon, peut-être que plutôt qu'une maison de 100 mètres carrés, je vais faire une maison de 90 mètres carrés. Et puis dans ce cas-là, cette partie-là de déconstruction et de réemploi, il s'est réintégré dedans. Maison de 90 mètres carrés, ça fait déjà une belle maison. Enfin, c'est que ce genre de choses aussi. Et l'optimisation, pour le coup, ça, la maîtrise d'œuvre est vachement importante là-dedans. Je me dis ça par rapport aux constructeurs de maisons individuelles. Je ne sais pas s'il y en a dans la salle, mais il y a un vrai souci en termes de consommation d'espace chez eux, dans la mesure où leurs maisons sont rarement très optimisées. Je le sais pour avoir bossé pour eux. Et l'avantage de penser une maison, de la faire dessiner par un professionnel, c'est que justement, on arrive à optimiser l'espace et à réduire en fait cette surface consommée. Et donc le coût qui va avec. Parce que voilà, on vend seulement 60 mètres carrés, en réalité 40 ça suffit par exemple, j'en sais rien.
C'est vrai que le réflexe,
ça c'est un moyen de faire des économies qui permettent de réintégrer le truc.
Mais, on a une question quand même.
Pardon, vas-y.
Donc en fait,
plus. Est-ce que c'est 5%, 10%? À combien vous estimeriez ça?
Tout dépend si vous voulez le type de réhabilitation que vous avez, quoi. Si vous êtes sur le degré de rénovation, est-ce que des fois on a des murs qui sont nickel, on a une toiture qui est nickel. Par contre, j'ai tous les intérieurs à refaire. Parce que justement, ça a été rénové peut-être dans les années 70 ou 60-70, où j'ai mis des enduits ciment, si vous voulez, sur mes murs. J'ai des gros problèmes de salpêtre. Donc tout dépend un petit peu du... Et après, bon, ça va jusqu'à la ruine, si vous voulez, que l'on veut reconstruire, que l'on peut reconstruire, si vous voulez, dans
l'état. On peut répondre poste par poste seulement.
C'est ça.
On ne peut pas donner des...
Enfin, non, là, il n'y a pas de...
Poste par poste. Et moi, ce que je dis, c'est qu'on part sur l'idée, c'est pas plus cher, c'est pas moins cher. On se donne cet objectif-là et après, dans ce panier-là, dans cette somme qu'on a pour la réhabilitation, ben on fait les choix. C'est comme une ménagère qui va faire ses courses, elle a 100 euros et 100 euros, elle fait ses choix. Elle dit, ah ben non, ça, je ne peux pas le faire.
Pour ajouter un élément à ce que vous dites, je pense que c'était important ce que disait Claude, de dire c'est vraiment poste par poste. C'est-à-dire que ça va être pour parler de coûts. Ça va vraiment dépendre des bâtiments et ça va être sur le poste menuiserie, sur le poste plaque de plâtre, sur tel poste, que là on va pouvoir dire si on peut faire du réemploi à coût constant. C'est possible aujourd'hui sur un certain nombre d'opérations. Moi je suis en train de travailler sur une opération aujourd'hui où on fait de la déconstruction, on va réutiliser toutes les menuiseries du bâtiment, que finalement on n'utilisera plus à l'extérieur mais à l'intérieur, justement pour une problématique de PV des bureaux de contrôle, et ça marche très bien, et ça on le fait à coût constant. Ça va demander plus de temps de travail mais on reste économiquement viable. Par contre, ça crée de l'emploi à un moment donné. C'est ce que disait Raphaël au départ et c'est très important, c'est de dire en étant à coût constant, en faisant de la déconstruction, il y a l'aspect écologique, mais en plus on crée du taf pour des gens. Et après, c'est vraiment à prendre poste par poste, mais globalement, il y a quand même beaucoup de postes où c'est rentable dans le sens où on arrive à le faire.
Tu peux peut-être nous énumérer rapidement, Raphaël, oui, toi qui as un peu la connaissance, quels sont les postes rentables?
Effectivement, on va peut-être faire une maison de 90 mètres carrés, parce qu'on se dit que la déconstruction, le réemploi va nous coûter peut-être un peu plus cher. Mais en fait, quand on va avoir un client, un maître d'ouvrage, on lui dit bon, conscientiser un peu le client, on va dire ça peut vous coûter plus cher ou pas. C'est quoi le discours là en fait? Parce que le nerf de la guerre, il est quand même
alors,
tout le monde le même.
Il faut voir un truc, c'est que on n'est pas du tout sur les mêmes manières de fonctionner entre un gros bâtiment public du genre le centre de ski nordique au col du Somport, 1000 m², bâtiment 40 ans, et une maison d'un particulier qui fait 80 m², 100 m², qui est plus ou moins en bon état. On n'a pas la grosse différence, elle réside dans la taille, bêtement. Un grand bâtiment, forcément on va sortir de plus grandes quantités de matériaux. Donc on va avoir plus de possibilités d'envisager du réemploi. Sur une maison, par exemple, plus la maison va être petite, plus on va sortir des petites quantités. Et, parce qu'il y a de la perte de toute façon sur la déconstruction. On ne peut pas faire sans perte, ça c'est pas possible. Grosso modo, moi je pars du principe, pour prendre une marge correcte, je considère 30% de perte. Jusqu'à présent, dans toutes les expériences que j'ai menées, j'ai jamais été à 30%. Mais... voilà, je pars sur ce principe-là, comme ça je suis à peu près sûr de mon coup. Le résultat de ça, c'est que, mettons qu'il y ait du plancher dans une baraque de 100 mètres carrés et qu'il y a 100 mètres carrés de plancher, très bien, ça veut dire que tu vas pouvoir en avoir sous le coude de 70 mètres carrés, à peu près. Donc 70 mètres carrés, ça veut dire que tu ne refais pas ta maison avec, tu vois. Ça veut dire que tu fais qu'une partie de ta maison. Plus, dans les 70 mètres carrés, c'est comme si tu achetais du neuf, ça veut dire que tu as tes 70 mètres carrés, mais tu vas avoir de la chute à la pose. Tu vas avoir 10%, 20% de chute en fonction de ton mode de pose, etc. Donc tes 70 mètres carrés, ils passent à 60 mètres carrés. Donc tu vas faire 3 chambres sur les 5 chambres qui sont prévues, j'en sais rien, un truc dans le genre. Quand tu pars sur un bâtiment de 1000 mètres carrés, si tu déposes 1000 mètres carrés de plancher, tu te retrouves avec 700. Et là, en réalité, pour le coup, justement, j'ai tendance à penser que le degré de perte est moindre également. Les surfaces étant plus grandes, on a aussi moins de coupes, moins de trucs comme ça. Et avec 700 mètres carrés, là, tu peux envisager de faire beaucoup plus de choses quand même. Donc, on est sur des... Il y a cet aspect-là qui est vraiment important. Après, sur la question des coûts, moi, effectivement, je suis incapable de dire si faire de la déconstruction et du réemploi, ça, c'est 5% plus cher, 10% plus cher, ou 5% moins cher, ou 10% moins cher. On peut l'imaginer aussi, hein, tout à fait. Mais après, ça dépend aussi. Enfin, c'est à mettre en rapport avec la qualité des matériaux dont je parlais tout à l'heure. Faire de la déconstruction et du réemploi avec de la pierre de taille, par exemple, ou des poutres en chaîne de 60-60 taillées à la main, là, on a des matériaux qui coûtent des sommes folles aujourd'hui. Donc, avoir une maison où tu as mis 10% de plus, mettons, mais par contre, tu as de la pierre de taille et tu as des poutres qui ont cette valeur-là, qui est une valeur historique, patrimoniale. Enfin, je veux dire, c'est des choses... Bon, bah là, la maison, elle-même ne coûte pas la même chose à la fin, à la sortie, que si tu avais mis un IPN à la con ou une poutre en BA ou je sais pas quoi. Donc voilà, il y a cet aspect-là. Et par contre, sur les expériences que j'ai faites, moi, j'ai de déconstruction à proprement parler, j'ai constaté qu'on arrivait à être rentable, entre guillemets, économiquement, sur des matériaux qui, parfois, ne le laissent pas penser du tout. Aujourd'hui, alors je voudrais faire quelques tests en plus pour vraiment valider le truc, mais a priori du BA13 par exemple, c'est intéressant de le démonter, parce que apparemment on arrive à payer la main d'œuvre avec, sans problème, à un salaire correct, c'est-à-dire c'est pas, il gagne pas 30 000 balles par mois, hein, mais à un salaire correct, c'est intéressant de démonter du placo, parce que en fait pour le coup, justement, le prix de la mise en déchetterie du plâtre est tel, que grosso modo, pour donner des chiffres, une plaque de placo 2m50, 1m20, 3m², c'est à peu près 6 € prix artisan, tu me corriges si je me trompe, chez un fournisseur de matériaux. Cette même plaque va coûter 3 € à mettre en déchetterie standard, pas en recyclage. 3 €, ouais, parce qu'on est entre 120 et 140 € la tonne. Et une plaque de plâtre, ça pèse, donc là 3 €. Ah ouais, c'est dingue. Hein. Moi, je la sors à 4,50 €. Sauf qu'à 4,50 €, je ne paye pas 3 € de mise en déchetterie, donc en réalité, il n'y a qu'un surcoût d'1,50 € pour l'ouvrier. Et derrière, moi j'ai des rails et ça me prend 2 secondes d'éclipser les rails et d'avoir les rails. Donc moi, pour 4,50 €, je sors la plaque et les rails. Alors que pour sinon, c'est 6 € pour la plaque et en plus, tu rachètes des rails à côté. Les rails, c'est pareil, c'est pas neutre, il y en a une quantité très importante à utiliser. Et donc j'arrive même à récupérer les vis, c'est pour dire, chez moi, j'ai réutilisé les vis à placo, quoi. Et ça, c'est dans le cas du BA13, c'est-à-dire le moins cher des plaques de plâtre. Si on part sur du BA15 ou du 18, là, on explose les scores. Donc voilà, alors après, ça demande un peu plus de boulot pour la remise en œuvre, ok, parce qu'il va y avoir des reprises à faire à droite, à gauche, etc. Mais là où c'est, par exemple, super efficace, et où ça permet d'avoir une maison qualitativement supérieure à du neuf standard, c'est que tu arrives dans une baraque... Je dis ça parce que je l'ai fait chez moi. Tu arrives dans une baraque, tu as plein de placos partout, hop, tu démontes, et plutôt que de refaire des cloisons simple pot, tu fais des cloisons double pot, parce que tu as deuxième pot, alors simple pot, double pot, je ne sais pas si vous voyez, un rail central, simple pot, une plaque de placo d'un côté, une plaque de placo de l'autre. Double pot, une plaque de placo d'un côté, une deuxième plaque de placo du même côté, une plaque de placo de l'autre côté, une deuxième plaque de placo de l'autre côté. Ça fait une cloison de 10 à la place d'une cloison de 7. Acoustiquement, c'est plus intéressant. On n'a plus cet effet pot de tambour, vous avez déjà. Voilà. Bon, il n'y a plus cet effet pot de tambour sur du double pot. On commence à avoir quelque chose de qualitativement vachement plus intéressant. Et donc, là, on a une cloison double pot au prix d'une cloison simple pot, par exemple. Donc, alors, c'est sûr, ça n'a pas coûté moins cher. Par contre, on a quelque chose qui est vachement mieux.
Il est midi.
Si vous voulez, à tout hasard, si vous voulez continuer à discuter de tout ça, je vous rappelle, on a le stand de Hydre là-bas où on va être toute la journée. Et on fait une petite discussion spécifique sur le sujet avec le collectif Five, un collectif d'architectes dont je fais partie également, sur le sujet où le collectif va être là justement pour animer un peu la discussion, essayer de faire émerger des choses. À 15h. Merci à vous.
Je vais marcher très longtemps, mais je m'en vais trouver les points qui redessinent. Je vais chercher et hontément les coups portés sur moi, la violence facile. Je vais marcher tout. violence facile, c'est où est l'on met, j'ai rien bu. Pas de l'immeuble, t'as rien vu. Quand moi je rentre furieuse, tout est paqué, les lèvres pleines. Attire à moi les oiseaux, séché sur ma peau. Les gens sourient de peur que ma maladie de boxeur se prête. Je vais marcher très longtemps et je m'en vais trouver le pan qui redécile. Je vais chercher et honteusement les coups portés sur moi, la violence facile. J'ai connu la honte. Je vais marcher.